du monde est plus naturellement dualiste que monothéiste. Qui perçoit le monde dans une prise de vue monothéiste? Celui dont l'âme est déjà informée d'autre part qu'en réalité il y a un et non pas duel. C'est-à-dire c'est une âme informée de quelque chose qui voit le monde être, parce qu'il y a une information préalable. Est-ce que c'est clair tout ça? Mais la raison naturelle, à la limite, la raison grecque, eh bien, a envisagé l'hypothèse de l'unité, mais l'a rejetée comme une folie pour la raison, comme une des raisons. Elle est capable d'envisager cette hypothèse, mais ça reste hypothèse. Seuls ceux qui ont eu cette histoire privilégiée des théophanies que raconte la Bible savent qu'en réalité elle en est ainsi, mais c'est un dévoilement qui se cache tout de suite. Et donc il y a risque d'oublier. Enfin non, pas d'oublier, ça ne suffit pas, mais d'occultation, et que les apparences reprennent force sur la conviction, une fois entendue. C'est clair. Ça, c'est la première avant-lecture. Alors donc, nous avons une exhortation que Dieu est un. Et nous allons demander en quel sens, et c'est là que viennent les trois. Quelle rapide.
Dans l'Égypte, le bête aussi a une dualité.
D'accord. C'est la carte d'identité du monde. Ça commence par bête. C'est bête, mais c'est comme... C'est exact. C'est-à-dire, je voudrais bien insister là-dessus. La tradition juive n'a jamais reproché aux non-juifs de ne pas être monothéiste. Parce qu'elle sait que ce n'est pas une donnée de nature. Lorsque, à l'échelle individuelle, dans les autres lignées humaines, il y a cette recherche et preuve de cette hypothèse entrevue, alors il y a une adresse, on rencontre Israël et sa tradition. Mais l'homme livré à ses propres forces, je dis bien livré à ses propres forces d'être de nature, ne peut pas arriver en certitude au monothéisme, sinon par une hypothèse poétique. Mais finalement, il fonctionne comme un dualiste. Je pense que c'est suffisamment clair. C'est pourquoi j'insiste souvent, c'est une donnée de la foi. En parlant français, quelle foi? La foi qui nous vient de la mémoire d'un événement qui a dévoilé cela, malgré les apparences, l'absolu est un. Alors que nous recevons son effectuation comme médiation dans le monde, à travers la multiplicité des valeurs, à travers en fin de compte la dualité des catégories. Puisque cette question se pose, je crois que ça vaut la peine d'y réfléchir encore un peu. Je vous l'avais d'ailleurs signalé au premier cours. Et il y a chez les enseignements juifs une inadvertance pédagogique grave. L'âme juive, l'esprit juif est tellement familier avec cette évidence qu'elle le prend pour une évidence de nature, pour une évidence rationnelle, et qu'elle le transmet souvent dans une pédagogie fausse. Ainsi. Alors, les enfants croient ce qu'on leur dit. Vous savez que les enfants sont sincères, alors ils croient que tout le monde est sincère. Les enfants croient ce qu'on leur dit. Et alors on leur dit, tu sais, c'est une évidence rationnelle, évidente que Dieu est un. Et les autres qui ne pensent pas comme ça, ça veut dire que la raison fonctionne mal. Ces enfants vont grandir, ils vont s'apercevoir que c'est l'inverse. La raison qui fonctionne bien devient dualiste, et que ce qu'on nous a raconté, que c'était la rationalité de l'évidence théologique de l'unité de Dieu, alors le risque, comme je vous ai dit au premier cours, c'est que la morale biblique s'en aille avec, dans cette déception. Et ce qui vaut d'ailleurs pour les enseignants, pour les pédagogues, aussi pour les parents. Quand les parents disent à leurs enfants, les parents juifs disent à leurs enfants, c'est la chose la plus naturelle au monde d'être juif, ils disent une énormité. C'est la chose la moins naturelle au monde. Je vais raconter une petite histoire, mais je risque d'oublier. Attendez, nous étions deux à collaborer à inventer ce midrash, mais j'ai oublié l'autre. Non, je peux être dualiste. C'est vous, Michel Prince, ou le rabbin Hazan. Bon, mais enfin, voilà le midrash qu'on a inventé. Et un jour, le bon Dieu qui a décidé de sauver l'humanité. Et puis, il s'est dit, par qui je vais commencer? Alors, il a eu une idée géniale, le bon Dieu. Il s'est dit, je vais prendre le peuple le plus difficile au monde. Si ça marche avec lui, je fais passer les autres. C'est ça l'histoire. C'est bien. Alors, il faut bien, comment dire, être réaliste. Et finalement, l'histoire juive vise une identité humaine surnaturelle. Et alors, tous les enseignants ou les parents qui tentent de transmettre à leurs enfants le caractère de Sabbat soir, c'est la véritable nature de l'homme en tant qu'être de nature, disent des énormités. Et il n'y a qu'à vraiment étudier et comprendre vraiment ce qu'est l'histoire de ce peuple pour savoir que ça va pas de soi. Que ce n'est pas un être de nature, que c'est autre chose. Quel?
Là, vous détournez la notion de un qui s'appliquait à Dieu à celle de notre monde. Voilà. Que devient alors la dualité créateur et créature?
Oui, oui. Et si j'ai bien compris votre question, cette dualité elle est fondamentale. Et lorsque nous parlons du créateur, de lui, nous disons qu'il est un. Alors que l'être de créature est dans la multiplicité. C'est pourquoi nous affirmons Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mais son monde, nous, la créature, c'est en question de recherche d'unité. Ça, c'est le problème que nous allons avoir avec le deuxième verset, Hashem Echad ou Shmo Echad. Ben, Shmo n'est pas encore Echad. Son nom n'est pas encore un. Son nom désigne la relation de médiation de l'unité absolue, infinie, Enso, avec la multiplicité du monde que lui a créé. Est-ce que c'est clair ce que je...
Mais l'ennui, c'est même pas pour le peuple juif.
Comment?
L'ennui, c'est que ce n'est pas encore
voilà,
même pour le peuple juif.
Mais c'est par là que ça passe, c'est la matrice de cela. J'essaierai d'expliquer très rapidement par quelque chose que d'autres, certains d'entre vous ont déjà étudié, je suppose. C'est qu'il y a un parallèle extraordinaire à travers la gamatria du mot Echad, hein, que c'est 13, okay. Vous rappelez, tout le monde sait ce que veut dire gamatria, okay, la valeur numérique du tout. Et un parallèle extraordinaire entre, ça va vous rappeler des choses auxquelles vous êtes familières depuis le Talmud Torah, je suppose, entre les 13 attributs de Dieu et les 13 tribus d'Israël. Là, nous sommes aidés par le français, tribu à tribu. Et d'ailleurs, chaque tribu ayant pour charge et pour rôle et pour vocation de réaliser dans le monde un de ses attributs. Il y en a un qui sont 13. Et le rôle et la tâche très difficile de la société d'Israël en tant que matrice, je parle du peuple juif en général, c'est d'être le lieu de gestation de l'unité de ces 13 dimensions. Mais c'est pas là que ça passe. Alors je vous cite une Gemara qui se trouve deux fois dans Brachot de Mahagiga et qui dit pendant que Israël en bas, sur terre, dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu en haut dit Miki Amecha, Ke Israël, Goy Echad Vaaretz. Et lui traduit. Pendant que Israël prononce la formule de l'affirmation de l'unité de lui, lui prononce la formule de l'affirmation de l'unité d'Israël. Le premier verset étant Écoute Israël, Hashem Elokeinu est un. Pendant ce temps, dit la Gemara, Dieu dit Et qui est comme ton peuple Israël, nation une sur la terre. Alors, ce verset l'explique. Regardez l'humour de la Bible. Nous sommes traités de Goy dans ce verset. Okay? Et qui est comme qui est Amcha Israël, Goy Echad Vav. S'il y a un seul Goy sur terre, c'est Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Goy? Vous avez entendu l'humour du verset. Qu'est-ce que ça veut dire Goy en hébreu? Ça veut dire une nation, tout simplement. Une nation organisée avec ses institutions. Goy. Am, c'est le peuple qui est le véhicule de cette nation. Am, c'est le peuple. Et lorsque je désigne le peuple, c'est compte tenu de l'organisation de la nation en société. C'est tous ceux qui sont ensemble, aim, qui vivent ensemble. Aim. Vous connaissez le mot aim, avec. Am, c'est l'ensemble, le clan de aim. Bon, nous avons un autre mot pour dire le peuple, c'est Uma. Uma, ou Léon, de la même racine, et ça se rattache à M. Tous ceux qui viennent de la même mère, retrouver l'affiliation par la mère. Léon, Uma, et c'est le peuple en tant que la famille de la même mère. Et Aïm, c'est tout ce rassemblement de ceux-là, la Uma, le Léon, mais avec ceux qui viennent avec. Aïm. Bon. Alors que Goy, ça veut dire nation organisée. Et alors, donc le verset nous dit que l'indice Echad est attribué à cette nation Israël. Partout ailleurs, il y a la multiplicité. Là se cherche le principe de l'unité à travers la convergence très difficile de ces 13 dimensions, de ces 13 manières d'être qui sont les 13 tribus d'Israël. Vous allez me dire, il y en a 12. Non, il y en a 13, vous savez, c'est 12 qui sont 13. Il y a 12 tribus et la tribu de Lévi qui s'appelle 13. C'est à travers la tribu de Lévi que se cherche le principe d'unité des 12 autres. Et c'est dans la structure même des enfants de Jacob qu'il y a une fille à l'œuf. Un, une fille, Dina, Chet, huit enfants de Rachel et Léa, six et deux, et quatre enfants de Bilha et Zilpa. C'est la structure même de la famille de Jacob. Le véhicule, le keli de cette unité, c'est la manière d'être homme Israël, mais qui rassemble à travers elle la multiplicité de toutes les nations. La multiplicité de toutes les nations cherche son unité à travers la preuve à faire dans ce creuset qui s'appelle la société juive. Et nous en avons parlé hier avant-hier, juste une minute. Je finis la lecture du verset. Donc, Mika Amicha Israël, Goyechad Baaretz. Le peuple de l'un, la nation de l'un, c'est Israël. Retenez cette correspondance des 13 attributs, Shlosha Esrim Midot, et les 13 tribus, Shlosha Esrim Shevatim. Ce qui est très important. Alors, on ne rentre pas dans le détail, ça c'est de la Kabbalah. Chaque tribu correspond à un attribut. Réhouven a une valeur à réaliser, Shimon une autre. Bon. Mais tout ça, c'est les Shevatim, les tribus. Le problème d'Israël, c'est l'unité de l'ensemble. Et oui, c'est relié à le verset qu'a cité Rashi. Hachem est déjà Echad. Mais Shmo semble-t-il pas encore. Et Vayabayomahu, et Hachem Echad, ou Shmo Echad. Et ce nom dont on parle, il y a un verset qui dit qu'il est invoqué sur Israël. Ou Kishmi Nikra Alecha. Vous vous rappelez du verset. J'ouvre une petite parenthèse qui me semble assez importante, qui me vient d'un colloque que nous avons eu. M. Méniel n'est pas là, non ?
Non.
Eh bien, c'était l'origine de sa relation au QH. Un colloque que nous avions eu chez les intellectuels catholiques, je pense, c'était en 67. Et, allez, ça y est, j'ai oublié ce que j'ai dit. Oui, et j'avais essayé d'expliquer cela. Les théologiens ont l'habitude de dire que le nom de Dieu est inconnaissable. Et c'est vrai. Lorsque les théologiens discutent entre eux, ils parlent du nom, le Shem, Yud-Kevav-Ke, comme un nom ineffable. C'est tout le thème du tétragramme, le nom des quatre lettres, informulable, dès que on formulerait sa limite et ça fait apparaître une image d'une autre. C'est clair. Mais donc j'avais ajouté quelque chose. En réalité, ce nom de Dieu nous a été révélé. Et c'est quand les théologiens juifs discutent avec des théologiens chrétiens, par exemple, qu'ils se disent entre eux, le nom de Dieu est imprononçable. Alors nous avons des allusions. Celui que nous reconnaissons comme notre Seigneur, notre souverain. Et c'est le mot, par exemple, Adonai, qui devient lui-même, puisqu'il désigne la présence de lui, qui devient lui-même un nom qu'on ne peut plus prononcer. Alors on dit Hachem, le nom. C'est clair. La tradition d'Israël est très exceptionnelle à ce niveau. Il y a une pudeur radicale à dire le mot Dieu. Nous n'avons que des formules de paraphrase, d'approximation, dont le sens général est de dire allusion à lui. Qui sait ? Eh bien, celui qui sait, sait. Mais dès que vous allez dire quoi, c'est une idole que vous allez faire apparaître. Je vous donne cette analyse pour vous faire comprendre, si vous voulez, jusqu'où peut aller la pudeur du sentiment religieux de la tradition juive. Dans les dialectes juifs traditionnels, ce mot, Dieu, est indécent. Ça ne veut pas dire que nous sommes athées. C'est là le piège. Okay. Ça veut dire que probablement nous sommes des croyants sérieux. Attendez, une minute, je risque d'oublier. Alors, je leur disais ceci. Ça a été imprimé d'ailleurs avec un courage et une loyauté extraordinaires dans les actes de ce colloque. Et en réalité, ce nom nous est révélé parce que dans l'expression « le Dieu d'Israël », le mot « Dieu » on ne comprend pas, mais « Israël » on comprend. Alors il suffit de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Israël pour comprendre qui est Dieu, le Dieu d'Israël. Est-ce que c'est clair ? Celui qui arrive à comprendre qui c'est Abraham, Isaac et Jacob, comprend qu'est-ce que ça veut dire Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Donc, vous voyez l'ambivalence, l'ambiguïté. Or, Israël, on peut comprendre. On ne veut pas comprendre, mais on peut comprendre. Alors, j'arrive à la lecture que je voulais faire. La lecture, donc, pshat, général, classique du verset, « Umi ki amecha ki Israël, ko yechad baaretz » Nous l'avons déjà vu. Et qui est comme ton peuple Israël, nation une, nation de l'un, sur terre. Je disais souvent que l'homme se définit par son idéal. Mais en réalité, l'idéal indique la vertu qui lui manque. Sinon, ce ne serait pas son idéal. Dis-moi en quoi tu crois, je te dirai ce que tu n'es pas encore. C'est clair. Or, il est bien évident que l'idéal d'Israël, c'est d'être la religion de l'un. C'est ce qui nous manque encore. Mais il n'y a que par là que ça passe. Vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est clair ? Et, par exemple, si vous faisiez une analyse très très rapide, typologie de ce que notre maître, M. Borlain, nous appelait l'historiosophie, l'idéal de la chrétienté, c'est la charité. L'idéal de la chrétienté, c'est la charité. Ça veut dire que c'est ce qui manquait à Rome, c'est la vertu qui lui manquait. Alors il a choisi cette vertu. Il faut se méfier des gens qui croient en quelque chose, mais qui ne le réalisent pas encore. Donc, c'est compris. Et quant à l'échelle individuelle, Un membre, homme ou femme, en général, plus les femmes que les hommes, mais vous comprenez aisément pourquoi. Un membre de cette identité romaine réalise cet idéal de charité, c'est exceptionnel. C'est plombré, comme on dit en français, spécialiste. Est-ce que c'est clair ? De la même manière, dans l'islam, et je pense par exemple aux petites sœurs de charité, comme on les appelle, ou les petites sœurs des pauvres, ou les sœurs, tout simplement. Et là, dans l'islam, ce qui va être choisi par l'idéal, c'est justement la vertu de rigueur, d'exactitude, de justesse, le din. Et nous savons très bien que c'est ce qui, dans la nature d'Ishmaël, manque. Lorsqu'il arrive à choisir cela comme idéal, il devient musulman. Okay? Mais il faut le réaliser. Est-ce que c'est clair le... Et puis une petite blague en passant. Alors ne croyez pas qu'un chrétien plus un musulman, ça fait un juste encore plus. Okay? C'est clair. La recherche de l'idéal de l'identité juive, c'est précisément l'unité de ces deux valeurs, restée des dignes. Et vous voyez comment ça éclaire, je pense notablement, les conflits compliqués que nous avons avec ces deux filiales ingrates. Alors revenons à notre problème. Voici la deuxième lecture de ce verset. Umik amechak et Israël goyechad baaret. Il a suffi de changer d'accent. J'ai pas changé ni des mots ni de l'ordre des mots. C'est qui est comme ton peuple Israël, nation une ou baaret, l'oberutz laaret. Baaret. Ça c'est la lecture sioniste du verset. Mais c'est l'obshat. Puisqu'effectivement, où se fait vraiment cette preuve que seul Israël est censé pouvoir faire, alors il a des problèmes, et c'est des vrais problèmes. Que toute l'humanité est une, dans le creuset de l'oratoire, on se cherche l'unité des Juifs entre eux. Et c'est aussi vrai dans la diaspora qu'il faut faire vivre ensemble, Sfarad et Ashkenaz, dans toutes leurs nuances et dans toutes leurs tribus, par exemple. Okay? Oui, mais c'est à une échelle partielle, et surtout peut-être à un niveau artificiel, il s'agit de les faire vivre ensemble dans une synagogue. Tandis que le problème réel, c'est au niveau de la municipalité, et pas de la synagogue. Bon, alors une synagogue, il s'agit de savoir qui va s'asseoir à la place du président. Un Ashkenaz ou un Sfarad. Qui sera le chamash, un Sfarad ou un Ashkenaz? Mais vous comprenez le problème. Mais tout ça, c'est artificiel. Quoique, c'est déléguer le vrai problème à un niveau symbolique. Mais le vrai problème, c'est Baaret. C'est là que c'est sérieux. Peut-être une solution, c'est soit être Ashkenaz ou s'appeler Sfaradi, soit être Sfarad ou s'appeler Ashkenaz. Je dis rien. Alors, on revient à votre question.
Vous avez l'impression que vous l'avez compris. Différentes
et complémentaires.
Enfin, parce que Jacob a eu
12
fils.
Oui.
Plus une. Ah, vous n'avez compté.
Toujours.
Et il y a un Aleph. Alors, justement, quel est le détail par rapport aux enfants de Jacob? Parce qu'en général, on compte le Aleph comme Lévi, non pas comme Bina.
Le Aleph comme Lévi. Non, c'est la tribu de Lévi qui va réaliser, j'ose pas dire incarner, mais c'est le mot, cette vertu d'unité que représente Dina. Comprenez bien le nom de Dina. Dina. C'est la mienne, Dina de Malkuta, Dina. Et, comment est-ce que je veux dire ? Je voudrais ajouter ceci, c'est un grand problème, et peut-être, si ce problème vous intéresse, on consacre la journée de dimanche là-dessus, je vous fais préparer les textes. C'est la recherche de cette 13e tribu pour faire l'unité de l'ensemble. Parce que, et nous voyons là une stratégie de la Providence qui est extraordinaire, qui a une tension messianique très très considérable. Tant qu'il n'y a pas cette 13e tribu, alors il n'y a pas l'unité. Des 12. La 13e, c'est l'unité des 12. Or, cette 13e tribu, on ne peut pas la fonder parce que c'est une fille et pas, et pas un gars.
Et que la loi bon. Est qu'on compte les filles, c'est pas
Et que
la loi est qu'on compte les filles, c'est pas une fille.
Attendez, j'ai pas mis. Et que
c'est pas une
fille. Oui, oui. D'accord. Non, c'est-à-dire que le fondateur de la tribu, cette question se rattache à notre problème, c'est que l'identité Israël se transmet par les femmes, mais l'identité de la tribu par les hommes. Par exemple, vous avez en aujourd'hui beaucoup de mariages mixtes entre juifs. Bien. Alors on est de la religion juive par la mère et du rite par le père. C'est-à-dire si un Ashkenaz épouse une Sfarad, les enfants sont juifs parce que la mère est juive. Mais ils sont Ashkenaz parce que le père est Ashkenaz. Okay? Et inversement. Vous avez compris le... L'acte fondateur du mariage, c'est l'échange des sœurs. Et vous comprenez ce que je dis ? Et par conséquent, le véritable père qui m'a donné ma mère, c'est le frère de ma mère. Est-ce que c'est clair ? Et dans beaucoup de...
Dans beaucoup de civilisations et dans les sociétés traditionnelles, l'oncle qui est le frère de la mère a toujours eu une place particulière. Par exemple, en judo arabe, je me souviens, on l'appelait Azizi, ça veut dire le chéri. Il avait une place particulière dans la famille. Je crois qu'en grec, on l'appelait le divin. Je me rappelle une fois, il y a très très longtemps, j'avais un séminaire avec Lévi-Strauss sur ces problèmes, les liens de parenté. Alors, moi, naïf, j'avais levé la main. Mais vous savez qu'il y a quelque chose comme ça dans... Il m'a répondu, on ne parle pas de la Bible à l'université. J'ai failli lui rappeler son grand-père qui était grand-rabbin de Versailles. Je ne sais pas comment. Alors, voilà donc le problème. Voilà. C'est-à-dire, pour briser la relation naturelle qui serait qu'on épouse sa sœur, alors il y a un pacte qui est fondateur du mariage, de l'échange des sœurs. Et par conséquent, en réalité, la mère est donnée par son frère en mariage, mais elle devait être au niveau d'un... Elle est donnée par son frère à son épouse. Donc il y a une sorte de paternité mystique du frère de la mère. Je voudrais encore ajouter.
C'est la sœur qui est donnée.
La fille de la
sœur. Et la mère de l'enfant qui devrait devenir le neveu de l'oncle. Ça ressemble au pied d'Iclée, mais en fait, c'est beaucoup plus clair. Et ce que je veux dire, c'est que. La charnière, c'est entre Abraham et Sarah. Lorsque Abraham et Sarah dit, elle est quand même ma sœur. Oui, oui.
Sarah était pas la... était parente quand même avec Abraham.
Oui, elle était sœur par le père et non pas par la mère. Okay.
C'est une demi-sœur.
On peut appeler ça demi-sœur si vous voulez. C'est là, c'est Abraham qui va faire le tikkun. Comprenez le mot de tikkun?
Oui.
La réparation de... du Olam Chesed Libanais, du fait que le premier homme épouse sa jumelle. Okay. Vous vous rappelez? Alors ça accompagne l'histoire de l'humanité. Je pense que les psychologues auraient ici matière à réflexion très profonde. Ça accompagne l'histoire de l'humanité, c'est en couche dans notre inconscient, jusqu'au moment où Abraham est la charnière. Et alors c'est là que l'acte fondateur du mariage comme fait de société apparaît, mais il est premièrement l'échange des sœurs. Remarquez la filiation de Jacob avec Laban, qui est le frère de sa mère. Il a le beau-père par excellence, l'oncle par excellence, et pourtant ça ne marche pas. À la fin de l'exil de Jacob chez Laban, Laban se dévoile comme affilié à l'Action française. En fait, je me l'ai dit. Quel pardon, oui.
Nous avons au Shabbat la vendredi et samedi. Un Shabbat avec M. Ashkenazi. Toutes les personnes qui souhaitaient réserver les repas peuvent les faire tard. Oui, jusqu'à 1h avec eux.
Et demain?
D'accord.
Merci. Entendu. Vous me rappellerez de vous le rappeler. Attendez, je voulais donc situer cette relation avec le Dod. Vous voyez, Dod en hébreu, ça veut dire aussi le chéri. Dod. L'oncle, mais Dod, ça veut dire aussi le chéri. Je vous avais joli petit rime que j'ai appris il y a très longtemps. Vous connaissez le chant qu'on chante d'ailleurs le vendredi soir dans le... dans le rite Ashkenaz, avant de commencer la rite. Et chez les Sfaradim, on le chante avant le Shabbat, et aussi tous les matins d'ailleurs. La Yedid Nefesh. Alors le mot, c'est Yadid. Et on va aller faire construire Yedid Nefesh. Alors, Yedid, c'est formé de deux fois Yad. Vous voyez ? Yad et Yad. Ça fait Yadid. L'ami dans le sens de l'hébreu, total, Yadid. Chéri, ça fait un petit peu trop romantique, mais Yadid en hébreu, c'est très fort. Yadid. Alors, si effectivement la mère rejoint la mère, alors le Nefesh est là, et le Hav devient l'Ahma. Yadid, Nefesh, Hav, Ahma. Vous avez compris la lecture. Bien. Alors, revenons à la question. Vous avez encore une question, mais rapidement, et qu'on arrive à notre problème.
Okay. Rachid rapporte un midrash à propos de Juna, concernant le fait qu'elle a, quand Jacob a traversé la rivière de ses bancs. Quand Jacob a traversé la rivière de ses bancs.
Du Yabok.
Quand Jacob a traversé la rivière de ses bancs.
Du Yabok.
Il n'a pas amené Dina. et Rachid rapporte la Midrash
avec Ésaü.
Avec Ésaü, et que justement c'est pour ça qu'Ésaü qui aurait pu se passer.
C'est ça. Il aurait peut-être pu, il aurait peut-être pas pu. Alors Jacob a tranché, il connaissait son frère. Et, c'est pas pour toi, c'est pour Joseph. Bon. Alors, le problème est important, mais je vous ai répondu succinctement, mais pour pas prendre trop de temps. C'est-à-dire Joseph va apparaître comme étant un homme capable d'avoir les fonctions d'Ésaü, mais cachère. C'est clair. Je ne sais pas de sa vie, alors que Esav reste Racha. Halacha, Esav, sonnez Israël. Halacha. Dès que vous rencontrez un Ésaü, vous savez que vous avez en face de vous, finalement, le principe du refus de l'identité d'Israël dans l'humanité. Et le descendant d'Ésaü étant Amalek, mais ça commence avec Ésaü. Bon, finalement, un jour, reviendra, on pourra dire on les a eus, mais en attendant, c'est pas facile. Alors donc, nous avons cette exhortation qui est adressée à Israël. Vous rappelez ce que dit le Talmud, un chameau, on ne cherche pas à savoir s'il est cachère, ça ne le concerne pas. Un agneau, on cherche à savoir s'il est cachère, ça le concerne. Alors un agneau, on le regarde à la loupe. Un chameau, on le regarde, grosso modo. Vous avez compris? Et c'est pourquoi Israël est tellement interpellé par les prophètes, et leurs disciples, les antisémites. Enfin, je veux dire, quand les antisémitiques, les prophètes, c'est avec une intention bien précise. Et alors, je vous citerai une minute. Un enseignement de Hugo Berman, qui est mort il y a quelques années en Israël, qui était un des grands philosophes israéliens. Si j'ose dire, c'était le Edmond Flegg d'Israël.
Le doyen de la vérité, c'est Berman.
Vous l'avez connu?
Non.
On en a parlé. Okay. Et parce qu'il était aussi un grand philosophe de l'espérance, et il a donner une fois un enseignement très précis, je me rappellerai toute ma vie, et très documenté d'ailleurs, très articulé, en disant ceci: nous sommes le peuple le plus interpellé de la terre, et premièrement par les prophètes. Mais les prophètes n'interpellent que nous. Vous comprenez le problème? C'est-à-dire, c'est le signe de la dignité d'Israël, être celui qui est interpellé. C'est cet agneau qu'on essaie de regarder à la loupe. Si tu es caché, si tu n'es pas caché. Bien? Et il ne faut pas trop exagérer dans le nombre de la cacheroute, parce qu'un agneau, c'est caché. Vous comprenez ce que je veux dire? Et alors que le chameau, ben, c'est un chameau. Qui va penser à essayer de démontrer qu'un chameau est caché? Un chameau reste un chameau. Un agneau peut être caché. Voilà. Et c'est donc à Israël qu'est donnée cette interpellation. Attention Israël, ça te concerne quand même. Tu es la nation de l'un, et n'oublie pas, et prends garde, et écoute. Ça c'était l'exhortation générale. Et maintenant, en tant que quoi, nous avons nos trois lectures que je vais rappeler pour arriver à la quatrième. Vous avez la parole. Victor, s'il vous plaît.
Monsieur David
Amener, qui descend par
les
arabes. Non. Et non, là il y a un thème important. C'est que. Non. Moab, c'est Lot, la lignée de Lot, le neveu d'Abraham. Pas par Essa. Une autre place. Par Ruth, vous voulez dire. Mais c'est Moab, c'est pas Essa. Mais il y en a un autre thème auquel vous touchez, je vais le dire très succinctement. C'est le fait que. Deux personnages de la Bible sont appelés Rou, Admoni. C'est Esav qui était Admoni et David qui était Admoni. Et Esav avait la fonction royale, c'est-à-dire la royauté de la vie sur terre, alors que Jacob avait la fonction sacerdotale. Et la fonction royale de Jacob, d'après la tradition, finalement va prendre la forme de l'Empire romain. Très jolie formule dans le Talmud. La pourpre, la troupe royale, c'est pour Esav. Il a voulu. Tu vois, il y a ici, ça plonge dans l'inconscient des symboles de l'humanité, que la pourpre est rouge. Hein? J'ai toujours, moi, l'imagerie espagnole, en tant que sporadique d'origine, si tu m'appelles ce que tu as dit, tu vois, sangre y oro, comme vous dites, hein? Le sang et l'or. Hein? Et puis surtout, on voit le cardinal de l'Inquisition, là derrière. Bon. Alors la pourpre, ça c'est pour Esav. On verra à la fin des temps. Si on peut fonder Malchut, l'État, sur un projet de fraternité, d'où l'importance du choc de la Révolution française dans l'aujourd'hui, c'est là que le sionisme est apparu. On s'est dit, on peut faire un État fondé sur l'égalité, l'égoïsme. Okay? Alors on a commencé à rêver.
J'ai dit tout ça.
Mais c'est David qui va reprendre la fonction royale cachère. Le verset dit que David était admoni, mais il est fait à Enaïm, avec de beaux yeux. Derrière les beaux yeux, il y a la bonté. Alors que les yeux déjà eus, c'était des yeux, j'allais dire performants, mais c'était plus. Bon, j'ai compris le. Mais c'est pourquoi dans l'imagerie, si vous voulez, du Midrash, on voit le Mashiach plus que blond, aux yeux bleus, mais avec des yeux bons, des yeux gentils, et non pas les yeux perçants de l'empereur. Oui, la différence entre la poupe des adultes et celle de l'homme. Et cette fonction est transmise par Isaac. Mais l'identité des adultes et Isaac avant le sacrifice, qui n'a pas eu lieu, mais le ligotement de la métatasine, pour la ligoter, pour la réprimer, alors que David va défendre Isaac après la raquette. Parce que Malchut est fondée sur la métatasine, Dina de Malchuta, Dina. Et c'est pourquoi Dina cherchait un prince. Mais alors, si le problème nous intéresse, de Shrem et Dina, nous ferons le texte dimanche matin avec les 14 textes que j'ai déjà notés, donc on le prend. Bon, et je reviens à notre problème.
C'est la mère de Dina qui est
sorte
de
Malchut. Hein?
C'est la mère de Dina qui est
sorte
de Malchut.
Qui est la mère de Dina?
Léa.
Alors, et
quelle est la citation? Elle n'est pas qui est sorte
de Malchut. Non, c'est Rachel. Mais les deux, mais surtout Rachel. Akeret Abaï. Bon, ça s'est inversé dans le livre de route, d'ailleurs. Bien. Alors, notre première lecture, c'était les enfants de Jacob s'adressant à Jacob, leur père, en appelant Israël. C'est donc le problème de l'unité au niveau anthropologique, avec une connotation messianique absolue. Deuxièmement, notre deuxième lecture, c'est l'exhortation de Moïse à Israël. La tension entre la foi et la loi, vous rappelez cela? Et puis, il y a aussi une dimension de la vocation universelle d'Israël, mais non pas à la manière des humanismes, à la manière d'une société particulière témoin de l'unité. Et la troisième lecture que nous avons déjà abordée hier, c'est donc la lecture qui nous sera dite à la fin des temps par l'ensemble des nations qui, s'adressant à Israël, dira « Shema Israël, Hashem Elkeinu, Hashem Echad ». Enfin, Michel Prince m'a donné, enfin grâce à lui, vous allez la voir, un texte avec ce rashi vocalisé, qui est en caractère carré, pas encore le rashi. Une traduction anglaise, mais je pense que je n'en ai même pas besoin. Alors nous avons relu cette troisième lecture dans la c'est ce paragraphe. Vous voyez? Vous en avez?
Non.
Bon, suivez, là, on se trouve avec le premier. Voilà, alors nous lisons ensemble. Ce sera parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne lisent pas les caractères rashi peut-être. Alors voilà ce que dit Rashi. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Hashem Shehu Elokeinu Ata. Vous suivez? Hashem qui est notre Dieu, entre guillemets, Ata, notre Dieu à nous, Israël. Ata, maintenant, déjà maintenant, c'est moi qui ajoute déjà. Velo Elokei Aumot, et non pas le Dieu des nations. Dans certaines sources de Rashi, il y a, et non pas le Dieu des nations idolâtres. Velo Elokei Aumot, Ordei Lilim. Au Akumas. Vous, Atib, Yot, Hashem Echad. Alors, essayons bien d'entendre la traduction en hébreu même, simultanément. Vous, lui, Atib, Yot, est destiné à devenir, deviendra Hashem Echad, Hashem 1. Et là, nous avons deux niveaux de lecture importants dans la dialectique entre le Mizrahi et le Bourari. Reconnu comme tel, et donc il est déjà le Dieu des nations, mais pas reconnu. Première lecture qui est indiquée par le Mizrahi. Nous avons dû le dire tout à l'heure. Deuxième lecture dite par le Bourari, dit non, il faut lire Rashi à la lettre. Jusqu'à la fin des temps, Hachem n'est le Elohim, le Dieu souverain que d'Israël. Il le sera de toute l'humanité à la fin des temps. Deux lectures de Rashi différentes, hein, différentes dans l'exposé théologique. Et vous devinez que je préfère la deuxième, parce qu'elle nous pose un problème plus difficile. Et on était là aujourd'hui d'arriver à l'aborder. Et il nous cite deux versets. Genéma, ainsi qu'il est dit dans Sfania, chapitre 3, verset 9, Yaz erpor el amin safa brura dikro kulam beshem Hashem. Car alors je déverserai sur les peuples une langue épurée, de telle sorte qu'ils puissent invoquer tous ensemble le nom de Hashem. Et ce premier verset est pour Rabbeinu Mizrahi, qui s'appelle le.
pour la première hypothèse, puisqu'ils donc, ils sont de langue, ils ne savent pas parler, alors ils disent un mot faux, c'est clair. Et je vous signale qu'il s'appelle Réhem. Réhem. Réhem, c'est les initiales de Rabbeinu Eliyahu Mizrahi. Alors, le Réhem que vous avez là dans cette page, ici. Vous voyez ? Ce commentaire-là sur Rashi. Je reviens tout à l'heure. Alors, je vous explique. Nous avons une énorme bibliothèque des commentateurs de Rashi. Mais c'est pas fini. C'est vraiment le commentaire le plus commenté. Mais, comment dire ? Et, on pourrait le dire de cette manière, bon, c'est une blague qui est à l'avance, c'est que son commentaire, c'est pour... je voudrais dire ça en deux mots. Commentaire. Comment ne pas dire ? Et là... La littérature de l'étude de Rashi est une bibliothèque pour elle-même. Et il y a des centaines d'ouvrages importants. Et dans le temps contemporain, nous avons encore de plus en plus d'ouvrages sur Rashi. C'est pourquoi j'étais très gêné par, quand le centre Broca a décidé de s'appeler Rashi. Apparemment, c'est un hommage, mais à quel niveau ? Je crois que très souvent, Rashi tique quand il en parle. Mais, revenons au problème. On a dit de Rashi, mais que la Torah était donnée avec son commentaire. Bereshit bar Elohim, c'est Bepirush Rashi bar Elohim, monsieur. Rashi est dans Bereshit. Alors, je reviens au problème. C'est le principal commentateur de Rashi. Et très souvent, il s'oppose à la lecture de Rashi, c'est Nahmanide. Le Réhem vient, apparemment, enfin, peu importe le mot, défendre Rashi contre Nahmanide, c'est le Réhem. Ensuite, le Gourarié vient s'opposer au Mizrahi au nom de Nahmanide. Vous voyez la dialectique des... C'est très schématique. Vous avez, en général, dans les éditions du Pentateuque, à côté de Rashi, un commentaire qui s'appelle le Siftei Hachamim. Vous avez d'ailleurs le Siftei Hachamim, édition de poche, dans nos éditions. Le Siftei Hachamim, c'est un énorme volume, est une sorte d'anthologie des principaux commentateurs de Rashi. Et qu'ils citent pour aider les Juifs à la synagogue lorsqu'ils lisent le verset au moment de Rashi pour les aider. Aujourd'hui, il faudrait de nouveau un commentaire du Siftei Hachamim. Okay. Parce que les commentaires deviennent hermétiques très rapidement. Vous comprenez ? Et il faut une étude pour arriver à comprendre ce qu'un expliquant de Rashi voulait dire de Rashi. Alors, en arrivant à Rashi, toute l'année se passe. Il y a eu des époques où, pendant la semaine, en 2-3 heures, on préparait la lecture de toute la Sidra le Shabbat, avec tous les versets, tout le Targum et tout Rashi. Aujourd'hui, on arrive dans une semaine à faire un verset. Regardez le niveau de chute de la capacité d'étude qui est arrivé. Vous comprenez ? Vous remarquez ça, quand on a explication de Sidra, bon, on fait un verset, on y arrive, par semaine. Alors qu'avant, c'était toute la semaine, toute la paracha en une heure de lecture, avec Rashi. C'est-à-dire, de génération en génération, nous sommes dilués de plus en plus. Bon, il faut savoir que les grands, c'est les grands. Hein, on peut
dire les choses à l'envers, on peut dire qu'il y a assez de lecture dans la lecture.
On peut le dire aussi. Bon, ça veut dire chacun à son niveau. Gang m'a raconté qu'il vaut mieux peu et bien que beaucoup et pas du tout.
Non, c'est pas vrai, non.
D'accord. La cause, la nouille, au bout de main, c'est l'élichement. Voilà donc notre troisième lecture. Et je me propose donc, dans le temps qui va nous rester, quelle heure est-il, 11h30?
Oui.
Oui, donc nous avons encore au moins une demi-heure plus. Okay.
Une heure.
On va prendre une petite Asaka, aujourd'hui je suis pas tellement pressé qu'hier, et pas va, et on peut rester peut-être un peu plus, s'il y a des questions supplémentaires. Alors, nous allons revenir sur cette troisième lecture. Je vais un peu déjà vous annoncer la quatrième. Qui m'avait demandé une quatrième lecture ?
Cinquième.
Ah, toi c'est la cinquième, et la quatrième c'est
la quatrième. La quatrième, vous savez qu'il manque une situation.
D'accord. Elle est là, elle est pas là, c'est toi ? Il y avait quelqu'un d'autre.
Oui, c'est Eva de là à là.
Bon, alors on y va. Je vais vous décrire la situation en question et nous allons y réfléchir jusqu'à la reprendre pour elle-même. Indépendamment donc de ces trois niveaux de lecture, du verset en tant qu'étude de la Torah. C'est une information d'un verset dans la Torah. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et nous avons eu ces trois positions
les enfants de Jacob parlant à leur père, Moïse interpellant son peuple, et à la fin des temps, les nations s'adressant à Israël. Et avec la question importante, d'exégèse, une question classique, pourquoi Rashi n'a cité que la troisième? Vous avez déjà donné la réponse hier. Les deux premières sont déjà pratiquement intégrées dans l'histoire, bien qu'à accomplir encore à l'échelle individuelle, mais à l'échelle du plat Israël, de la généralité d'Israël. Tout le monde sait que tous les juifs sont juifs, toutes les tribus sont juives. Et même si nous n'avons pas aujourd'hui d'identification généalogique directe par les tribus, c'est perdu à la destruction du premier temple. Quoique certaines familles ont leur filiation, ce qu'on appelle le sépulcre racine, de l'arbre généalogique jusqu'à la tribu considérée, nous avons d'autres problématiques de division en tribus, qui sont les divisions en communautés, ou peut-être en tendance idéologique, ou peut-être en parti politique. Par exemple, on pourrait dire qu'une des tribus, c'est la Agudat Israël, une autre, c'est la Shomer HaTzair. Et alors imaginez, un Shomer HaTzair, un Agudat Israël vivant ensemble, écoute, nous sommes le même. Vous voyez à quel point ça dépasse la raison. Et pourtant, c'est cette affirmation-là qui est indiquée. Est-ce que c'est clair? Arriver à voir que Reuven et Shimon, c'est deux manières d'être Israël, et que c'est un. Et que Reuven, Agudat Israël et Shimon, si j'ose dire, Shomer HaTzair, disent ensemble, écoute Israël, nous sommes un. Alors qu'il suffit de lire les journaux israéliens pour savoir à quel point on est loin de l'idéal de cette unité. Et malgré tout, existentiellement, ils sont dans le même bateau, comme on disait en patois. Vous vous rappelez de ça? Deuxièmement, l'identification d'Israël en tant que la religion de Moïse ou en tant que la descendance des patriarches, l'histoire ou la foi, eh bien tout le monde sait qu'en fait, bon, malgré ce mystère comment l'un c'est l'autre, c'est comme ça quand même. Est-ce que c'est clair? Donc selon Rashi, on pourrait dire bien que ces problèmes sont en cours de réalisation, c'est déjà irréversible. Le troisième problème, c'est lui qui est encore en question, donc ce sera notre lecture. C'est-à-dire, à la fin des temps, ce sont les nations qui diront à Israël, écoute Israël, et vous savez à quel point déjà l'histoire a bien avancé, en particulier d'ailleurs dans le monde de la chrétienté, où nous avons déjà entendu cela, quand le monde de la chrétienté s'adresse à Israël, c'est pour dire, mais nous avons le même Dieu. Chidouche, le Romain disant à l'hébreu, Hashma Israël, Hashem Elkenu, Hashem Echa. C'est arrivé. Rashi a prophétisé. Et d'une autre manière, dans l'islam, lorsqu'il parle du Dieu d'Abraham, il ne parle pas du Dieu d'Israël, comme les chrétiens sont beaucoup plus avancés peut-être sur ce chemin-là, mais en tout cas, lorsqu'ils invoquent le Dieu d'Abraham, ça veut dire le Dieu d'Israël, et personne ne s'y trompe. Bon, mais il n'y a pas que cela, il n'y a pas que. Il s'agira de toutes les nations. Là, je voudrais déligner un thème qui est important. Je ne sais pas si j'arriverai à l'élucider suffisamment. Enfin, je vous l'ai dit quand même, parce qu'il fait partie de l'économie du sujet. C'est que chaque fois que ce Kriyat Shema a été dit, c'est au moment de la mort. Vous vous rappelez? Lorsque Jacob va mourir, ses enfants disent Shema Israël. Lorsque Moïse va quitter Israël, Moïse n'est pas mort dans le sens, Jacob non plus d'ailleurs, dans le sens de la mort biologique que nous connaissons habituellement, la mort de nature, Jacob a vu nous l'omettre, Moïse est monté au ciel, c'est des thèmes différents. Hein? Je les signale en passant, mais enfin au moment de prendre congé, si j'ose dire. On a rendez-vous un jour, mais ils ont pris congé entre-temps. Et Dieu a besoin d'eux dans d'autres mondes. Et à la fin des temps, qui va disparaître? Alors, vous risquez d'entendre, et on aurait tendance à dire, les Goïms. Avant de mourir, ils vont dire Israël, Shema Israël. Alors, c'est pas si simple. Hein? Je sais que vous risquez d'entendre ces thèmes-là, au temps messianique, il n'y aura plus de Goïms. C'est faux. C'est mal dit. Ce qui va disparaître, ce sont ces manières partielles d'être l'homme que chaque nation représente dans une équation figée et qui est l'empêchement de l'unité. Dans un certain vocabulaire sociologique, nous dirions les nationalismes de chaque nation. Oui, pas les hommes,